Honoré de Balzac, voyage de Paris à Java. J'étais déjà plusieurs années comme feu Robinson Crusoe, tourmenté par un violent désir de faire un voyage au long cours. La presqu'île du Gange, ses archipels, les pays de la sonde et particulièrement les poésies asiatiques devenaient de jour en jour le tyrannique objet de mes espérances. Une idée fixe est-elle un bien ou un mal, je ne sais. Les unes nous valent des systèmes politiques ou des monuments littéraires, d'autres nous conduisent à Charenton. Néanmoins, en attendant la solution de cet important problème, il sera peut-être assez utile de constater la cherté journalière de ces sortes d'idées. La traversée des Indes est fort coûteuse, mais il est facile d'en chiffrer les dépenses quand on l'a fait. Il est impossible de les arrêter quand on ne la fait pas, et alors elles deviennent ruineuses. En effet, que d'heures en vain consumées. Oh, je ne parle pas des dégâts causés par vos distractions, un tison roulé sur le tapis, l'encrier renversé, votre pantoufle brûlée, etc., en vous supposant artiste, écrivain ou homme d'imagination. Non, non, comptez seulement les moments précieux, gaspillés, les trésors d'âme et de pensées follement perdus pendant des heures employées à regarder les arabesques incrustées au marbre de la cheminée. Or, le temps, c'est de l'argent, mieux encore, c'est du plaisir. C'est l'incommensurable quantité de choses virtuellement conçues dans cet abîme où tout va, d'où tout sort, qui dévore et produit tout. Rêvez, n'est-ce pas voler votre délicieuse maîtresse ou vous, si heureux par elle? Ainsi, pour établir le compte de mes pertes, souvent un mot dans une phrase, la rubrique d'un journal, le titre d'un livre, les noms du Mysore, de l'Indostan, les feuilles déroulées de mon thé, les peintures chinoises de ma soucoupe, un rien m'embarquait fatalement à travers le dédale des contemplations, sur un vaisseau fantastique, et faisait surgir les mille délices de mon voyage imaginaire. Je possède, entre autres sujets de dépenses, deux vases mexicains que m'a vendus Schœlcher et qui me coûtent journellement 3 ou 4 heures. Laissant tomber le livre où je cherchais quelques renseignements de grief urgence, et où j'ai rencontré les mots de bayadère, colibri, sandale, lotus, autant d'hypocryphes qui m'emportent dans un monde d'odeurs, de femmes, d'oiseaux et de fleurs. Alors mes yeux s'attachent sur une des chimères capricieuses de ces vases mexicains, laquelle représente un lapin assis sur un fauteuil, endoctrinant un serpent armé de moustaches et d'éperons, symbole de 1000 sottises littéraires ou politiques. Puis, plongé dans une infertile méditation, fruit défendu au genre de peine et au genre de lettres, de même genre de gens, je vais flairant les parfums indiens. Je me perds au milieu de ces pays grandioses auxquels l'Angleterre restitue aujourd'hui leurs antiques magies. Le luxe impérial de Calcutta, les prodiges de la Chine, l'île de Ceylan, cette île favorite des conteurs arabes et de Simbad le marin, effacent toutes les merveilles de Paris. Enfin, de rêve en rêve, j'ai fini par ne rien faire et par être réellement épris d'une espèce de nostalgie pour un pays inconnu. Un jour en novembre 1831, au sein d'une des plus belles vallées de Touraine, où j'avais été pour me guérir de mon idée fixe, et par une ravissante soirée où notre ciel avait la pureté des ciels italiens, je revenais, gai comme un pinson, du petit castel de Méret, jadis possédé par Tristan, lorsque je fus arrêté soudain à la hauteur du vieux château de Valennes, par le fantôme du Gange qui se dressa devant moi. Les eaux de l'Indre s'étaient transformées en celles de ce vaste fleuve indien. Je pris un vieux saule pour un crocodile et les masses de sachets pour les élégantes et sveltes constructions de l'Asie. Il y avait un commencement de folie à dénaturer ainsi les belles choses de mon pays. Il fallait y mettre ordre. Alors tout fut dit. Je résolus de partir, malgré la rigueur de la saison, pour mon voyage dans les possessions de leurs majestés hollandaises et britanniques. Avec une impétuosité toute chinonnaise, je me rendis immédiatement à Tours, montai dans la diligence et courus prendre les commissions de deux amis qui se trouvaient sur ma route. Je voulais m'embarquer à Bordeaux, me fiant sur le célèbre principe « Tout chemin mène à Rome ». Rien ne saurait exprimer le bonheur et la quiétude auxquels je fus en proie en roulant dans la voiture qui me rapprochait nécessairement de Chandernagor et des lacs d'Yves. Sachant à n'en pas douter que j'avais commencé mon voyage de long cours, Sumatra, Bombay, le Gange, la Chine, Java, Bantam, me laissaient tranquille et je regardais les champs monotones du Poitou avec un indicible plaisir. Je disais adieu à la France. À chaque visage, je pensais en moi-même, quand le reverrai-je ? Il y eut dans ma détermination une sorte d'excentricity, dirait alors Byron s'il vivait encore, qui me faisait ressembler à aucun des voyageurs vulgaires. Je partais avec mon habit, une paire de rasoirs, 6 chemises et quelques légers bagages, comme si j'allais visiter un voisin. Je n'emportais ni remède contre le choléra morbus, ni pacotille, ni tromblon, ni tente, ni litcan, rien enfin de ces 1000 choses inutiles aux voyageurs. Je comprenais admirablement que vivre ici, vivre là, l'acte de vivre devait être partout le même, et que moi j'aurais de haillons, mieux j'irais. Pour me justifier de ce dénuement forcé et le convertir en quelque chose de stoïque, je me souvins de ce profond philosophe qui, dans le siècle dernier, sauf quelques traversées maritimes, m'avait fait le globe à pied sans dépenser plus de 50 louis par an. Frédéric II voulut le voir et ordonna une parade exprès pour lui. Le voyageur, c'était un Français. Ayant refusé de monter à cheval, le roi le laissa au milieu de la place de Potsdam en commandant de le considérer comme un obstacle et ses troupes ouvrirent leur rang devant l'étranger. Frédéric, lui ayant demandé s'il pouvait lui être utile, le pèlerin pria le monarque de lui les faire toucher à Berlin l'argent qui se trouvait consigné pour lui à Dresde. Ah, c'est très bien autrement sublime que le « range-toi de mon soleil » dit par Diogène à Alexandre en semblable occasion. Mais je me proposais d'imiter ce Français, maintenant ignoré, dont Frédéric admira les vastes connaissances et l'allure économique. Je n'ai jamais pu savoir la fin de ce Lapérouse pédestre. Souvent, le drame sans cesse tissu par sa destinée, aussi riche qu'inconnu, m'occupe des heures entières. Combien d'hommes, chargés comme lui de trésors, ont péri sur des plages désertes et dont le monde savant n'héritera jamais. Aussi, pour être utile à mes voisins de l'Observatoire royal, je pensais à faire très prudemment mon voyage. N'eussais-je rapporté que le redressement d'une erreur dans la plus commune des latitudes ou dans la plus obscure longitude? N'eussais-je ramassé que de minces mollusques inconnus, révélé quelques fautes dans les hauts du méridien, recherche scientifique auquel je suis d'ailleurs complètement étranger, je regardais mon voyage comme pouvant lutter de richesse avec la relation de Lord McCartney, Amherst, ou celle de tel Lord qu'il vous pliera de déchoisir parmi les explorateurs d'Afrique, d'Asie, d'Australie, etc., lesquels m'ont toujours paru être de grands charlatans. Je me promis surtout d'écrire mon voyage de manière à lui donner des teintes fabuleuses, afin d'être également lu par les savants, par les enfants, et cru par ceux qui croient tout ce qui est incroyable. J'arrivais dans ces dispositions à Angoulême, où j'ai voulu faire ma station. Or donc, avant d'aller plus loin, je me rendis à la poudrerie bâtie par feu le général Ruti sur les bords de la Charente. Cette usine, conçue dans un genre monumental, a coûté la bagatelle d'1 million à l'État, et le gouvernement y fabrique naturellement très peu de poudre en vertu de la passion que nous avons pour les contradictions. C'est un goût véritablement français qui se reproduit en toutes choses. Ainsi voyez-vous à Paris une pancarte appendue à une boutique annonçant des bottes ou des chapeaux imperméables. Sachez qu'ils pomperont l'eau plus promptement que les autres. Rendons justice à l'administration. Elle se conforme bien à notre inconséquence et à notre esprit gaulois. Oh, sous ce rapport, elle est éminemment nationale. Depuis le point de départ et la fin de nos révolutions jusqu'au tableau de nos marchands, ne concluons-nous pas toujours en France à l'encontre des prémices? Mais l'investigation parlementaire des bévues administratives n'étant pas le but de mon voyage, l'usine du gouvernement obtint mon admiration. Et peu soucieux de critiquer, je me trouvai le lendemain soir, après une bonne nuit employée à me remettre de mes fatigues, devant un feu joyeux entre 3 amis. Permettez-moi de supprimer toutes les niaiseries empreintes de personnalité par lesquelles mes devanciers commencent leur relation. Pour abréger, lancez-vous sur le champ à travers l'océan et les mers d'Asie, franchissez les espaces sur un brick à assez bon voilier et volons rapidement au fait, à Java, à mon île de prédilection. Si vous vous y plaisez et si mes observations vous intéressent, vous aurez économisé les ennuis de la route. Cependant, si vous étiez de ma trempe, je vous plaindrais. Je l'avoue à ma honte, les choses qui me charment le plus dans une relation sont précisément celles que je comprends le moins. Quand un voyageur me parle du débouquement de je ne sais quelles îles, des moussons, des courants, du nombre de brasses trouvées à tel endroit dont je me soucie comme des os d'Adam, des écueils, des minutes, du loch, des hautes et basses bonnettes, de la drôme, du dérélingage, du dérapage, de l'état du ciel, etc., des fleurs, des plantes en ya, appartenant aux dicotylédones ou dicotomes, personnés, orobranchoïdes, digités, etc., ou d'animaux nudibranches à tentacules clavipalpes, globulicornes, marsupiaux, hyménoptères, bivalves, sans valves, oh, comment ils font cela, hyménopodes, gastéropodes, diptères, etc. Alors, j'ouvre de grands yeux au livre et tâche de saisir quelque chose dans ce cataclysme de mots barbares. Semblables à ces gens arrêtés sur le pont neuf pour contempler inutilement la rivière en voyant tout le monde la regarder, je cherche l'inconnu dans le vide avec toute la passion d'un chimiste qui espère faire du diamant à force de carboniser des voies de bois. L'ouvrage produit en moi une fascination semblable à celle qui est exercée par la vue d'un abîme. La lecture d'un livre inintelligible comme l'est l'Apocalypse, oh, il y a beaucoup de livres apocalyptiques par la littérature qui court, mais par-dessus tout, celle des voyages scientifiques est pour mon âme une partie de bar dans les ténèbres, pareil à la lutte de Jacob avec l'Esprit du Seigneur. Et souvent, il ne m'est pas plus permis qu'au patriarche de voir l'Esprit. Java, Java, terre, terre. Voilà, revenir à son sujet. J'avoue que, pour un Européen, pour un poète surtout, Aucune terre ne saurait être aussi délicieuse que l'île de Java. Je vous parlerai des choses qui s'imprimèrent le plus vivement dans ma mémoire, mais sans ordre, au gré de mes souvenirs. Ce qu'un voyageur oublie est toujours peu de choses. Si je ne suis pas littérairement logique, je le serai relativement à l'ordre des impressions. Ainsi, je m'occuperai d'abord du fait le plus personnel et le plus immédiat pour un homme qui sort d'un vaisseau. À Paris, vous vivez à votre guise, jouant, aimant, buvant au gré de votre organisation. Aussi l'ennui vous y saisit bientôt. Mais à Java, la mort est dans l'air. Elle plane autour de vous. Elle est dans un sourire de femme, dans une œillade, dans un geste fascinateur, dans les ondulations d'une robe. Là, si vous avez la prétention d'aimer et de suivre vos penchants, vous périssez radicalement. Que de pernicieuses séductions naissent de cette sagesse forcée. Ne les écoutez pas. Vous devez être avare de vous-même, sobre surtout, vous soutenir par des toniques et ne pas vous dépenser follement. Or, après avoir soigneusement écrit ce petit Manet et Belfares sur vos tablettes, vous vous trouvez en présence des javanaises. Devenus vertueux sous peine de mort, vous rencontrez à chaque pas les agaçantes tentations de Saint-Antoine, moins le cochon. D'abord, posez en principe que les femmes de Java sont folles des Européens. Puis laissez-moi vous décrire l'espèce admirable qui, dans le beau sexe, forme la famille javanaise. Là, les femmes sont blanches et lisses comme du papier de Bath. Nulle couleur ne nuance leur teint. Leurs lèvres sont pâles, leurs oreilles, leurs narines, tout est blanc. Seulement de beaux sourcils bien noirs et leurs yeux bruns tranchent sur cette pâleur bizarre. Le luxe de leur chevelure est prodigieux. Presque toutes peuvent, en secouant leurs cheveux, se trouver à couvert sous un pavillon impénétrable à l'œil le plus ardent, et ce long voile tombe à terre de tous côtés. Ce précieux ornement, dont elles sont incroyablement fières, est l'objet des soins les plus minutieux. Les petites maîtresses de l'île consomment entièrement l'huile de macassar que produisent les Indes. Aussi, quand il m'a été démontré qu'il n'en était jamais venu 2 litres en France, je ne pense pas sans rire à la fortune de M. Naquet qui en vendait de petites bouteilles par milliers. Si vous aviez passé vos mains dans la chevelure abondante et parfumée d'une javanaise, vous auriez le plus profond mépris pour ces petits taillis capillaires que les Européennes cachent si facilement sous un bonnet. La plupart des femmes sont riches et souvent veuves. Le lendemain de son arrivée, un Européen confortable peut faire un mariage aussi riche qu'il a pu le rêver pendant les premières heures de ses lentes et froides nuits. Le luxe effréné, les recherches inouïes, les poésies de la vie, si paresseuses en Asie, se joignent aux séductions des javanaises pour vous conseiller une folie mortelle, surtout après une longue traversée. Là, tous les yeux ont les langoureuses ardeurs des regards de la gazelle. Là, les pieds blancs armés de prestige reposent sur des coussins de soie et de cachemire. Aussi ai-je toujours été tenté de les nommer à la manière de Perrault, des pieds de fée. Une javanaise distinguée n'est jamais vêtue que d'une blouse de mousseline qui prend au col, tombe jusqu'à terre et n'est serrée autour de la taille que par une cordelière en soie de couleur unie. Ses diamants, ses perles, les anneaux, les bijoux sont semés à profusion sur les esclaves qui la servent. Si l'arrêt que le bétel lui noircissent les dents, en revanche, son haleine reste toujours suave. Il est rare que les Européens résistent au spectacle de ces féeries. Quant à moi, j'y ai succombé, malgré l'effroyable avertissement écrit sur le front de ces javanaises, presque toutes mariées 5 à 6 fois et 5 à 6 fois veuves. Pour un artiste, qu'y a-t-il de plus tentant que de lutter avec ces femmes pâles, frêles, délicates, vampiriques? Pendant les longues mélancolies et les secrets désespoirs qui me prirent entre 20 et 22 ans, j'avais plus d'une fois savouré les plaisirs du suicide, sans avoir été jamais plus loin que sur les bords des fossés de la Bastille, dans le temps où il n'y avait point d'eau. Mais le plus délicieux de mes suicides projetés a été le suicide par excès d'amour. Je n'imaginais rien de plus poétique, de plus gracieux, que ces langueurs douces et prostrations complètes qui devaient m'amener insensiblement au néant. Eh bien, j'ai trouvé la réalisation de ces rêves insensés dans le mariage de Java. C'est l'amour dans toute sa poésie, l'amour ardent, l'amour ingrat, l'amour sans remords. Les javanaises ne pleurent jamais l'homme qu'elles enterrent. Elles l'oublient après l'avoir adoré mieux qu'elles n'aiment Dieu. Il y a là quelques ressemblances avec la perfection de la machine qui broie son inventeur. Enfin, ailleurs, vous vivez par l'amour. Là, vous en mourrez. Puis l'amour insouciant cherche une autre victime, comme la nature qui poursuit son cours sans prendre nul souci de ses créatures. Aussi les javanaises consomment-elles beaucoup d'Européens? Peut-être devrait-on expédier des maris pour Java, comme on expédie des pacotilles de jeunes Anglaises pour le Bengale. Il est extraordinaire que l'on n'ait pas encore à Paris indiqué ce débouché aux lieutenants ennuyés du service, aux poètes sans gloire, aux acteurs sans engagement et à tous ceux qui sont susceptibles d'aller à Sainte-Pélagie. C'est une branche de commerce plus naturelle que ne l'est cette traite des Blancs, si hardiment faite à chaque nouveau tirage et connue sous le nom de « remplacement militaire ». Les gens blasés devraient aller tous à Java. Tous y trouveraient une vie colorée comme le fut la mort de Sardanapale. On y vit sur un bûcher. Je fus sauvé de mon doux supplice par un accident. Ma javanaise mourut et je le regrettais bien vivement. Avant mon départ pour le Gange, elle me fit le présent le plus amoureux que puisse faire une javanaise, en me donnant un de ses cheveux roulés sur une carte. Lorsque, par curiosité, je montre ce cheveu sans fin, je rencontre bon nombre d'incrédules qui le prennent pour toute autre chose. Et moi-même, il y a des jours où je ne crois plus à ce cheveu. Mais ce sont les jours où, pour moi, les cieux sont déserts. Un savant de ce pays m'a prouvé, par des raisons qui ne sont pas sans mérite, que la blancheur des javanaises était due à la singulière culture de leurs cheveux. Je réserve ce document pour les hommes de science, ainsi que plusieurs autres détails qui ne sont pas de nature à être publiés, et qui pourront jeter quelques lumières sur certaines questions physiologiques. Cependant, avant de passer à un autre sujet, il est important de controverser un point essentiel à la réputation des javanaises. Depuis mon retour, j'ai lu quelques fragments du voyage fait à Java par un naturaliste très distingué, lequel n'a relâché qu'à Surabaya et n'y est resté que peu de temps. Il a dépeint les femmes de Java comme étant généralement laides. S'il a entendu parler des malaises de la classe inférieure ou moyenne, je suis d'accord avec lui. La javanaise, pâle et chevelue, dont j'ai observé les mœurs, est la femme riche. Or, dans tout pays, Il y a des différences énormes entre la population femelle aristocratique et celle des infimes régions sociales. Le même auteur a singulièrement insisté sur le penchant à la jalousie qui distingue le beau sexe de Java. Il attribue la mort rapide des Européens à la vengeance des Javanaises, auxquelles il accorde l'art de préparer avec une grande habileté certains breuvages empoisonnés. Quoique les femmes de cette île n'aient guère besoin de cet accessoire pour tuer leurs amants ou leurs maris, qu'elles dévorent si promptement, je crois volontiers à leur jalousie et à ses sinistres effets. Là où l'amour est si meurtrier, si rare, chaque femme doit être avare de son trésor. J'avoue que la dissimulation des Javanaises et leur sourde vengeance ne sont comparables à celles d'aucune européenne. S'il ne m'a pas été donné d'apercevoir ces riches couleurs de leur caractère, si je les ai crues meilleures, je les trouve bien autrement belles et poétiques, investies de ces deux autres passions. Elles vous veulent si entièrement qu'elles ne vous pardonnent pas même un regard jeté à leur rival. Mais si les plaisirs sont si chèrement vendus, si périlleux, il faut reconnaître qu'ils sont immenses. Semblables à la poésie, à la peinture, à la science, consumant les savants, les peintres et les poètes, elles sont jalouses et implacables comme l'est le génie. Leur amour est un feu véritable, il brûle. Le lendemain de mon mariage, et par un poétique hasard qui augmenta le délire du plus suave des réveils, j'entendis pour la première fois le chant du Bengali. Quand l'île de Java n'aurait plus l'admirable parure de son printemps éternel, ses beaux sites, ni ses forêts vierges, ni sa cité mouvante où toutes les nations fourmillent, où le luxe des Indes se marie au luxe de l'Europe, enfin, quand elle serait privée de ses houris voluptueuses, si le Bengali lui restait seul, il faudrait faire encore le pèlerinage de Java pour apprendre jusqu'à quel point la nature surpasse l'homme en science musicale. Je ne saurais exprimer toutes les sensations données par le Bengali de Java. Son chant comprend tout. Son chant, comme une riche mémoire, sous-entend toutes les poésies possibles. Ce sont par moments les impressions fraîches et délicieuses du premier amour évoquées à sa voix. Tantôt il vous parle de patrie et d'enfance. Tantôt il formule les rêves fantastiques et indicibles des plus religieuses mélancolies. Puis tout à coup, il produit sans effort, avec grâce, les effets longtemps recherchés, les difficultés surmontées qui font la gloire des virtuoses. C'est la rapidité perlée des notes du piano, la tendresse des cordes, les sons si sympathiques à l'âme du fils harmonica. Il est le chantre des passions vraies. Écoutez un Bengali lorsque votre âme seule a conservé quelque puissance auprès d'une javanaise satisfaite, éteinte d'une ces joies asiatiques dont rien ne peut donner l'idée. L'oiseau redit vos pensées, chante les muettes voluptés de vos regards, exprime les délices évanouies déjà sur vous, et leur donne une seconde vie par la grâce aphrodisiaque de ses accents. Enfin, il parle au cœur, il le remue encore, au moment où les sens se taisent. Le Bengali est peut-être une âme heureuse. Puis la nature prodigue la vêtue d'or, de pourpre, d'émeraude. Ce sont des diamants aériens, des pierreries qui volent autour de vous. Cette pauvre petite fleur de l'air perd la voix au-delà des Açores. Ce divin oiseau vit en suçant des roses et se nourrit de parfums. Il est amoureux et fidèle. Entre les roses, il en est une au Bengali et à Java, dont il est si éperdument affolé qu'il ne peut exister que dans son calice. Aussitôt qu'il en voit une, il y vole, il s'y étend, s'y baigne, s'y roule. Il la baise, la suce, la piétine, lui chante ses plus douces roulades. Il semble qu'il retrouve une autre vie, celle après laquelle nous aspirons tous. Peut-être n'y a-t-il point de passion humaine comparable à celle du Bengali pour cette rose favorite. Malheureusement, je suis d'une ignorance perverse en fait d'histoire naturelle, de sorte que je suis réduit sur toutes ces merveilles à mes simples observations. Je ne puis donc vous dire combien ce poète a de rémiges, ni à quel endroit précis du bec ses narines sont percées, ni si les mandibules se rapportent bien, ni en quel état sont les tarses. D'ailleurs, ce Bengali, c'est le mien. Il est à moi. Moi seul l'ai compris, entendu. Oui, cet oiseau, sa musique du moins, est un secret entre mon âme et le ciel, comme le poème de mélancolie contenu dans certaines notes de Weber reste un mystère entre deux amants. Sachez-le bien, je fais partie des voyageurs égoïstes, espèce oubliée par Sterne dans sa grande classification des voyageurs. Aussi n'ai-je point eu la prétention de rechercher la nature des terrains, ni de rapporter une flora javanica. Je me suis laissé aller à mes fantaisies. J'ai vu tout en amateur et en poète. Il serait possible que j'eusse jugé les javanaises comme cet Anglais jugea les femmes de Blois d'après un seul échantillon. Mais si je mens, c'est de la meilleure foi du monde. Cependant, il y a des choses dont il est impossible de douter, même lorsque, de retour au coin du foyer patrial, les événements de notre voyage prennent à nos propres yeux des teintes fabuleuses, et qu'embellies par les poésies du souvenir ou par l'emphase de la narration, qui contracte toujours une couleur lyrique, les incidents les plus vulgaires grandissent et s'imprègnent de tout le chimie attaché au récit personnel de celui qui dit « J'étais là, telle chose m'advint ». Enfin, ainsi, après avoir dit la javanaise dont l'amour assassine et le délicieux gosier du Bengali dont le chant est un beau livre, je suis contraint par ma souvenance de vous parler du Volcameria, bel arbre dont la fleur est à l'odorat, ce que la javanaise est à la passion, ce que le Bengali est à l'oreille. Même développements intellectuels dans l'âme d'un homme à ses artistes, pour savoir aspirer les renaissants parfums de ses divines corolles. Aussi les couronnes que ces femmes de l'Inde mettent dans leurs chevelures sont-elles tressées avec des touffes de Volcameria. Certes, elles en connaissent la prodigieuse puissance. La senteur des Volcameria entre doucement d'abord en vous, humblement même, et avec la timidité de celle des violettes. Puis elle pénètre, devient un goût, est sapide pour le palais, et vous rappelle confusément les délices de la fraise, la piquante suavité de l'ananas, la joie vineuse d'un cantaloup, mais fondue gracieusement et dans tout le vague d'un souvenir pur. Enfin, cette créature occulte persiste, elle envahit l'entendement, le perce, et agite comme le ferait un jasmin des Açores ou quelque tubéreuse éloignée. Alors ce sont mille parfums ensemble, tous délicats, fins, élégants, frais surtout. Ils se jouent dans l'âme à l'instar des rêves, ils chatouillent, ils réveillent les idées les plus folles, les plus rieuses. Vous revenez à la fleur comme le Bengali à la rose. Vous la respirez par de longues aspirations sans vous enlacer. Elle est inépuisable de ces brises parfumées qu'elle varie sans jamais vous en fatiguer. Il y a de la femme dans les soupirs de sa touffe. Vous diriez une tendre maîtresse près de laquelle vous causez le soir voluptueusement. Odeurs humides, créations désespérantes, et quelle jolie création! Son tissu épais et velouté comme celui des camélias a des couleurs douces de l'abricotier. Sa fleur se compose de 15 ou 20 petites roses à pétales arrondis et disposées comme une des plus belles rosaces copiées dans les œuvres de la nature par nos architectes pour l'ornement des temples. Ces petites roses, foncées sur les bords, presque blanches au centre, amoureusement pressées, forment une touffe bombée comme celle de l'hortensia. Cette fleur et ses senteurs exquises appartiennent essentiellement aux âmes folles de musique, folles des joies du cœur, et qui aiment à prier. Écoutez les chants du Bengali, respirez les vols caméria, en passant une main demi-morte dans quelques chevelures javanaises, au frais, sous un ciel de feu, dans l'atmosphère humide que les Chinois savent produire en étendant de longues nattes en paille de riz mouillée devant les fenêtres de votre palais tranquille, tout tapissé de soie, de cachemires éclatants. Ah, cette vie est une ébauche d'âme et de poésie dont il n'existe d'image en aucune extase. Pour ceux qui l'ont goûtée, il n'y a plus ni art, ni musique, ni chef-d'œuvre. Oui, les madones de Raphaël, les accords de Rossini, l'orchestre des bouffons, les efforts de notre parfumerie française, nos livres, nos poètes, nos femmes, tout devient là petit. L'Europe est impuissante. L'Asie et Dieu seul ont pu créer ces jouissances pour lesquelles le langage manque aussi bien qu'à ces vives étreintes qui sont l'hymne mystérieuse de deux cœurs. Enfin, dans cette île des miracles, tout est d'accord, tout embrase la vie, tout la dévore et l'on en revient tué. En effet, là, le seul sens qui reste à charmer y est satisfait dans toute l'ambition des désirs les plus effrénés. Le goût y dédaigne les fruits d'Asie pour un aliment admirable. Il s'agit du thé pris à 2 pas de la Chine, de ses qualités narcotiques, de ses pouvoirs qui pour moi en ont fait un agent de plaisir immédiatement placé entre l'opium et le café. Le vin, le café, le thé, l'opium sont les 4 grands stimulants dont l'action réagit instantanément sur la puissance du cerveau par l'impulsion donnée à l'estomac et qui compromettent singulièrement l'immatérialité de notre âme. Laissons le vin aux indigents, son ivresse grossière trouble l'organisme sans payer par de grands plaisirs le dégât qu'il fait dans le logis. Cependant, prise modérément, cette imagination liquide a des effets qui ne manquent pas de charme, car il ne faut pas plus calomnier le vin que médire de son prochain. Pour mon compte, je lui dois de la reconnaissance. Une fois dans ma vie, j'ai connu les joies de cette divinité vulgaire. Permettez-moi cette digression, elle vous rappellera peut-être une situation de votre vie analogue à celle dans laquelle je me trouvais. Or donc un jour, en dînant seul, sans autre séduction que celle d'un vin, dont le bouquet était un sisyphe plein de parfums volcaniques, je ne sais sur quelle côte pierreuse il avait mûri, j'oubliais les lois de la tempérance. Cependant je sortis, me tenant encore raisonnablement droit, mais j'étais grave, peu causeur, et trouvais un vague étonnant dans les choses humaines ou dans les circonstances terrestres qui m'environnaient. 8 heures ayant sonné, j'allais prendre ma place au balcon des Italiens, doutant presque d'y être et n'osant affirmer que je fusse à Paris, au milieu d'une éblouissante société, Non, je ne distinguais encore ni les toilettes ni les figures. Délicieux souvenir, ni peine ni joie. Le bonheur émoussait tous mes pores sans entrer en moi. Mon âme était grise. Ce que j'entendis de l'ouverture de la Gazza équivalait au son fantastique qui des cieux tombe dans l'oreille d'une femme arrivée à l'état d'extase. Les phrases musicales me parvenaient à travers des nuages brillants, dépouillées de tout ce que les hommes mettent d'imparfait dans leurs œuvres, pleines de ce que le sentiment de l'artiste y avait imprimé de divin. L'orchestre m'apparaissait comme un vaste instrument où il se faisait un travail quelconque, dont je ne pouvais saisir ni le mouvement ni le mécanisme, n'y voyant que fort confusément les manches de basse, les archets remuants, les courbes d'or des trombones, les clarinettes, les lumières, mais point d'homme, seulement une ou deux têtes poudrées, immobiles, et deux figures enfilées, toutes grimaçantes. Oh, je sommeillais à demi. Ce monsieur sent le vin, dit à voix basse une dame dont le chapeau effleurait souvent ma joue, ou que, à mon insu, ma joue allait effleurer. J'avoue que je fus piqué. Non, madame, répondis-je, je sens la musique. Puis je sortis me tenant remarquablement droit, mais calme et froid comme un homme qui n'attend pas apprécier, se retire en donnant à ses critiques une crainte vague d'avoir chassé quelque génie supérieur. Pour prouver à cette dame que j'étais incapable de boire outre mesure et que ma senteur devait être un accident tout à fait étranger à mes mœurs, je préméditais de me rendre dans la loge de Madame la Duchesse de, gardons-lui le secret, dont j'aperçus la belle tête si singulièrement encadrée de plumes et de dentelles, que je fus irrésistiblement attiré vers elle par le désir de vérifier si cette inconcevable coiffure était vraie ou due à quelque fantaisie de l'optique particulière dont j'avais été doué pour quelques heures. Quand je serai là, pensais-je, entre cette grande dame si élégante et son amie si minaudière, si bégueule, personne ne me soupçonnera d'être entre deux vins. Et l'on se dira que je dois être quelqu'homme considérable. Mais j'étais encore errant dans les interminables corridors du théâtre italien, sans avoir pu trouver la porte damnée de cette loge, lorsque la foule, sortant après le spectacle, me colla contre un mur. Mais cette soirée est certes une des plus poétiques de ma vie. À aucune époque je n'ai vu autant de plumes, autant de dentelles, autant de jolies femmes, autant de petits carreaux ovales par lesquels les curieux et les amants examinent le contenu d'une loge. Jamais je n'ai déployé autant d'énergie, ni montré autant de caractère. Je pourrais même dire d'entêtement, n'était le respect que l'on se doit à soi-même. La ténacité du roi Guillaume de Hollande n'est rien dans la question belge en comparaison de la persévérance que j'ai eue à me hausser sur la pointe des pieds et à conserver un agréable sourire. Cependant, j'eus des accès de colère, je pleurais parfois, et cette faiblesse me place au-dessous du roi de Hollande. Puis j'ai été tourmenté par des idées affreuses en songeant à tout ce que cette dame avait le droit de penser de moi, s'il ne reparaissait pas entre la duchesse et son amie. Mais je me consolais en méprisant le genre humain tout entier. J'avais tort, néanmoins. Il y avait ce soir-là bien bonne compagnie au bouffon. Chacun y fut plein d'attention pour moi et se dérangea pour me laisser passer. Enfin, une fort jolie dame me donna le bras pour sortir. Je dus cette politesse à la haute considération que me témoigna Rossini, qui me dit quelques mots flatteurs dont je ne me souviens plus, mais qui durent être éminemment fins et spirituels. Oh, sa conversation vaut sa musique. Cet homme était, je crois, une duchesse ou peut-être une ouvreuse. Ma mémoire est si confuse que je crois plus à l'ouvreuse qu'à la duchesse. Cependant, elle avait des plumes et des dentelles. Ah, toujours des plumes et toujours des dentelles. Bref, je me trouvais dans ma voiture. Il pleuvait à torrents et je ne me souviens pas d'avoir reçu une goutte de pluie. Pour la première fois de ma vie, je goûtais l'un des plaisirs les plus vifs, les plus fantasques du monde. Extase indescriptible, les délices qu'on éprouve à traverser Paris à 11h30 du soir, emporté rapidement au milieu des réverbères, en voyant passer des myriades de magasins, de lumières, d'enseignes, de figures, de groupes, de femmes sous des parapluies, d'angles de rue fantastiquement illuminés, de places noires, en observant à travers les rayures de la verse mille choses que l'on a une fausse idée d'avoir aperçues quelque part en plein jour. Et toujours des plumes et toujours des dentelles, même dans les boutiques de pâtissiers. Certes, le vin est une puissance. Quant au café, il procure une fièvre admirable. Il entre dans le cerveau comme une ménade. À son attaque, l'imagination court échevelée. Elle se met à nu, elle se tord, elle est comme une pythonisse. Et dans ce paroxysme aspirateur, un poète jouit de ses facultés centuplées. Mais c'est l'ivresse de la pensée comme le vin amène l'ivresse du corps. L'opium absorbe toutes les forces humaines. Il les rassemble sur un point, il les prend, les quarts ou les cubes, les porte à je ne sais quelle puissance, et donne à l'être tout entier toute une création dans le vide. Il fait rendre à chaque sens sa plus grande somme de volupté, l'irrite, fatigue, l'use. Aussi l'opium est-il le mort calculé. Mais entre l'opium, si cher aux Orientaux, surtout aux Javanais, qu'il achète en le payant 10 fois son poids d'or, entre le vin et le café dont l'abus est reçu même à Paris, la nature a placé le thé. Le thé, pris à grande dose et bu dans les contrées, où comme à Java, la feuille fraîche encore n'a rien perdu de ses précieux parfums, le thé vous verse tous les trésors de la mélancolie, les rêves, les projets du soir, même les conceptions inspirées par le café, même les jouissances de l'opium. Mais ces caprices arrachés au cerveau se jouent dans une atmosphère grise et vaporeuse. Les idées sont douces. Vous n'êtes privé d'aucun des bénéfices de la vivacité corporelle. Votre état n'est pas le sommeil, mais une somnolence indécise, semblable à la rêverie du matin. Or, à Java, vous trouvez du thé tout fait, tout prêt, dans chaque boutique. Vous y entrez, vous buvez 1, 2, 3 tasses, en vous servant des bols en porcelaine préparés, et vous n'êtes obligé à aucun signe de politesse. Vous agissez comme en France, lorsque vous allumez votre pipe aux lampes instituées à la porte des débitants de tabac. Toutes ces jouissances réunies, la javanaise, les fleurs, les oiseaux, les parfums, le jour, l'air, cette poésie qui met une âme entière dans chaque sens, m'ont fait dire depuis mon retour des Indes, heureux ceux qui vont mourir à Java.